C'était leur dernière occasion de convaincre le plus grand nombre. Deux heures de débat hier soir entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Discussion, on le disait, cordiale, mais avec des vraies différences, de profondes divergences. On y revient ce matin avec le politologue Olivier Roucan. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cet entre-deux-tours à gauche, il avait plutôt mal commencé, c'est le moins que l'on puisse dire. Beaucoup de tensions, cafouillage sur la participation. Est-ce que ce débat a permis au moins de clarifier les positions, de calmer un peu tout cela? On a l'impression que chacun y a mis un peu du sien.
Oui, je pense qu'hier soir, il y avait un climat assez serein et en même temps pas mal d'énergie. Donc finalement, c'était une émission plaisante à regarder qui portait sur le fond des programmes des deux candidats avec une clarté dans l'expression. Donc de ce point de vue, ça aura sans doute permis de tourner la page de ce début de semaine, oui.
Et est-ce qu'après cette soirée, les deux gauches, ces fameuses deux gauches, vous paraissent tout autant irréconciliables qu'avant ?
Alors, moi, je suis plus nuancé. Il y a en effet deux candidats. Donc forcément, on a tendance à dire qu'il y a deux gauches. C'est le second tour. Mais il y en a plus, d'abord, des gauches. Et ensuite, si on regarde ce fameux revenu universel qui cristallise beaucoup de positions, on se rend bien compte quand même que Benoît Hamon a mis de l'eau dans son vin. Et puis, il explique que d'abord, ce sera les 18-25 ans. Sans condition de ressources. Aujourd'hui, combien de 18-25 ans gagnent énormément d'argent et sont en situation active? Et Manuel Valls lui dit « je vais fusionner les minima sociaux et élargir le RSA en l'augmentant aux 18-25 ans ». Donc, est-ce que si irréconciliable que cela?
Au-delà des noms, les positions se rapprochent peut-être. Justement, le revenu universel, on en a beaucoup parlé hier soir, comme pendant les précédents débats. On a beaucoup parlé plus largement du travail avec deux conceptions, deux visions de la société assez différentes.
Tout ce que propose Benoît Hamon, sans augmentation des impôts, n'est tout simplement pas possible. C'est et il est là le problème.
Il vous répond.
Et nous avons besoin de dire la vérité, de cette transparence vis-à-vis des Français.
Ce dont on parle, c'est pas de rêve, c'est d'une option politique. La réalité de la dernière année, Manuel, c'est que les rêves que vous avez financés sont ceux de ceux qui avaient déjà beaucoup, de ceux qui étaient déjà bien portants.
Il y a une différence entre le rêve et l'illusion, et la crédibilité d'un projet. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, et c'est là-dessus que les Français doivent choisir.
Alors, le rêve, la crédibilité, on voit bien comment Manuel Valls tente de décrédibiliser justement les propositions de Benoît Hamon. Est-ce que ça marche, selon vous, ou est-ce que ça tombe à côté ?
Alors, ça peut marcher auprès de l'électorat qui est très réaliste. Est-il toujours bien ancré à gauche ? Et n'y a-t-il pas aujourd'hui des attentes au sein d'une grande partie de la gauche sur, alors sans parler de rêve, dans tous les cas, sur des propositions tranchées, audibles, qui correspondent à la tradition de la gauche et d'une certaine partie du Parti Socialiste ? Bon, c'est tout le problème de Manuel Valls, d'être audible, de faire entendre ses propositions. Parce qu'on a bien entendu sa posture, qui est celle de l'homme de pouvoir, l'homme de gouvernement, capable de tenir l'État. Et de ce point de vue, il fait passer son message. Et il pourrait récupérer ce qu'on appelle la première gauche, alors que Benoît Hamon a récupéré, semble-t-il, la seconde. C'est-à-dire toute une partie de l'électorat de Arnaud Montebourg sur ce plan. Sur le plan de l'intervention de l'État, de la capacité à tenir l'État, il est clair que Manuel Valls semble aujourd'hui, comme il le dit lui-même, plus, entre guillemets, crédible.
Benoît Hamon prise à partie aussi sur sa conception de la laïcité, jugée trop ambiguë, trop complaisante à en croire Manuel Valls. On écoute justement la réponse de Benoît Hamon.
Quand ce voile est le symbole de l'asservissement, comme tu le dis, ou de la servitude, ou de la domination des hommes sur les femmes, ou de l'asservissement des femmes, objectivement, rien ne doit être laissé de côté pour le combattre. Et je le fais. Mais sur ces questions-là, la loi de 1905, c'est une loi de liberté. C'est la liberté aujourd'hui qui est celle de croire, à côté de celle de ne pas croire. Elles sont garanties par la loi de 1905, donc je redis ma position. Toute la loi de 1905,
on poursuit.
La
loi
Benoît, 1905. Benoît.
Alors, sur la laïcité, il y a une vraie fracture entre les deux. Est-ce que cette fracture, elle est aussi sensible dans l'électorat de gauche, ou alors est-ce qu'il la surjoue pendant ce débat, selon vous ?
C'est difficile de répondre. On sait quand même que dans la société civile, sans parler de l'ensemble de l'électorat, donc les associations mobilisées, on sait en effet que les rapports se sont tendus et qu'il y a une fracture. On l'a vu sur le débat autour de l'Observatoire de la laïcité il y a quelques mois. Donc cela répercute des tensions qui sont sur le terrain, qui existent, c'est vrai. En même temps, il y a toujours ce jeu, la focale est mise sur ce débat. Il y a un surjeu parce que dire que la laïcité est une liberté, c'est dans tous les textes, c'est la Constitution et même l'article 1 de la loi de 1905 dit exactement la même chose. Donc aucun candidat républicain ne peut déroger à ceci. Oui, la laïcité, c'est une liberté.
Alors forcément, ils n'ont pas pu échapper hier soir à l'actualité, à la polémique sur Pénélope Fillon, ce qui nous a valu d'ailleurs cette sortie, disons, inattendue de Manuel Valls.
Je crois que le député a eu ce bon mot assez juste. Vous imaginez le général de Gaulle employant tante Yvonne à l'Élysée. Au-delà de la boutade, c'est à la justice d'éclaircir. On travaille ou on ne travaille pas. Il est là le débat. Il ne porte pas uniquement sur le principe.
Plus sérieusement, Olivier Roucan, un mot de cette affaire quand même. Le parquet financier s'en est emparé hier. Une enquête ouverte en pleine campagne. Comment François Fillon peut-il gérer là, les deux choses en même temps? Est-ce que c'est possible?
Alors, il semblerait qu'il ait demandé à être le plus vite entendu. Donc, il y a façon de gérer. Il y a jouer la transparence et donner des éléments d'explication probatoires. Ensuite, ça peut être géré dans un second temps ou même en fonction des publics par rapport à ses militants les plus mobilisés sur le mode du bouc émissaire, ce qui a déjà été fait par le passé par d'autres présidentiables ou présidents touchés par on va dire des interrogations sur les pratiques financières.
Merci beaucoup. Merci. Olivier Roucan, politologue au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Je rappelle le titre de votre dernier livre, En finir avec le président, justement, aux éditions Bourin.